Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, ravis de vous retrouver à l'écoute de Radio Vatican. Dans l'actualité de l'Église de cette nouvelle édition de notre programme, nous vous ferons écho des activités du Saint-Père au cours de la journée de vendredi, avant de nous rendre en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, au Tchad, entre autres. Quant à l'actualité sociopolitique sur le continent, les pays concernés seront notamment le Nigeria, la Tanzanie, la Centrafrique. À tous et à toutes, bienvenue dans cette édition de notre programme.
Radio Vatican, France-Afrique, Françoise Niémier.
Le pape a reçu tour à tour vendredi en audience privée le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, le cardinal Donald William Howell, archevêque émérite de Washington aux États-Unis d'Amérique. Toujours vendredi, Monseigneur Enrico Ferrucci, curé du sanctuaire de Notre-Dame du Divin Amour à Rome, et Monseigneur Silvano Tomasi, nonce apostolique émérite, ont été les hôtes du pape. Les deux font partie des 13 nouveaux cardinaux que le pape créera le samedi 28 novembre prochain. Signalons que jeudi, le pape avait reçu en audience privée le cardinal Giuseppe Bettori, archevêque de Florence, venu présenter le Nouveau Testament de la conférence épiscopale italienne. Le Saint-Père a adressé une lettre de condoléance à l'archevêque de Kuala Lumpur en Malaisie, Mgr Julian Leon Beng Kim, à l'annonce du décès du cardinal Anthony Soter Fernandez, premier cardinal malaisien. Dans sa lettre, François prie pour le repos éternel du cardinal Fernandez, exprimant sa gratitude pour son témoignage fidèle à l'Évangile, son service généreux à l'Église en Malaisie et son engagement de longue date dans la promotion de l'œcuménisme et du dialogue interreligieux. Les audiences générales du pape de chaque mercredi se tiendront de nouveau dans la bibliothèque du Palais apostolique, sans public, et seront transmises en direct sur les différentes plateformes des médias du Vatican. La décision a été prise jeudi suite à la découverte d'un cas positif à la COVID-19 parmi les fidèles ayant assisté à l'audience générale du mercredi 21 octobre dernier. La Toussaint, le dimanche 1er novembre prochain, marquera la reprise des messes publiques et d'autres célébrations liturgiques en Gambie, a annoncé Mgr Gabriel Mendy, l'évêque de Banjul, seul diocèse du pays. Le culte public avait été suspendu en août en Gambie suite à une augmentation des cas du nouveau coronavirus. La reprise des célébrations avec participation des fidèles à partir du 1er novembre devait être programmée de sorte qu'il y ait un intervalle d'une heure entre les messes afin que l'église puisse être correctement nettoyée et aménagée pour la prochaine messe, a indiqué Mgr Mendy, invitant ses prêtres à ne chanter que les parties essentielles et fondamentales de la messe. Les paroissiens âgés, les malades et les enfants de moins de 12 ans sont dispensés de participer en personne à des messes publiques. Les ministres de l'Eucharistie leur apporteront la Sainte Communion dans leurs maisons respectives. Mgr Mendy a encouragé ses fidèles chrétiens à respecter et à appliquer les mesures barrières telles que le port de masques faciaux, le lavage régulier des mains, le maintien de la distance sociale. Les jésuites zambiens se disent profondément préoccupés à la suite du rapide affaiblissement de l'économie de leur pays, affaiblissement qui met en danger la vie socio-économique des pauvres, des marginalisés et des vulnérables. Cette déclaration des fils de Saint-Ignace a été faite en marge de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance de la Zambie le samedi 24 octobre dernier. Le document publié par le jésuite Center for Theological Reflection, le centre jésuite pour la réflexion théologique, fait remarquer que la dette intérieure de la Zambie est équivalente à son PIB. Le déficit fiscal, le taux d'inflation et la dépréciation de la monnaie sont en hausse, indique également le centre d'études jésuites. Les jésuites zambiens soulignent aussi que la maturité de leur indépendance et de leur démocratie se mesurera à la volonté effective des responsables politiques à penser au bien commun au lieu de penser à leur propre enrichissement. En République démocratique du Congo, Le ministère de la Santé de la province du Haut-Katanga, en collaboration avec l'ONG Dynamique Internationale des Activistes des Droits Humains, a décerné un prix d'excellence au père Albert Kabungé, supérieur provincial de l'inspecteur salésienne Maria Assunta d'Afrique centrale, pour son engagement dans la lutte contre la COVID-19. En saluant ce diplôme de mérite, le père Kabungé a souligné que la reconnaissance devrait être étendue à toute la famille salésienne en République démocratique du Congo qui s'est mobilisée comme un seul corps dans la lutte contre le coronavirus. Depuis mars 2020, les fils de Don Bosco en République démocratique du Congo sont engagés dans diverses initiatives de sensibilisation, de solidarité et d'assistance visant à sauver des vies et à aider ceux qui vivent plus durement les conséquences de la pandémie. Restons en République démocratique du Congo pour parler avec notre correspondant local d'un double événement. Il s'agit de la confirmation de plusieurs dizaines de jeunes dans le diocèse de Maagi-Nioka et de l'ordination sacerdotale dans le diocèse de Tchoumbé.
1888, c'est le nombre total des jeunes et enfants qui ont reçu le sacrement de confirmation des mains de leur évêque, Mgr Sostène Ayikoli. L'évêque de Maagi-Nioka dans la province de l'Ituri a effectué une tournée pastorale à cet effet du 22 au 25 octobre dans les quatre secteurs de la paroisse Sainte-Marie Vierge et Mère d'Ariwara, les secteurs Nderi, Moro, Djaoudjaou et Centre. Le dimanche 25 octobre, l'évêque l'a célébré dans l'église paroissiale à Ariwara. À l'homélie, il a exhorté les fidèles à déployer toutes leurs pensées, leurs forces et leur intelligence au service de l'amour. Aussitôt après la messe, Mgr Ayikoli a pris la route jusqu'à la paroisse Notre-Dame du Rosaire à Aba, à 400 km dans l'extrême nord du diocèse, à la frontière avec le Soudan du Sud et non loin de la frontière de l'Ouganda. L'évêque s'y est rendu pour l'ordination sacerdotale du diacre Martin Adrupiako. Le sacrement de l'ordre, l'évêque de Tchoumbé dans la province du Sankuru, Mgr Nicolas Djomo, l'a conféré le dimanche 25 octobre au cours de la messe célébrée sur la place du centenaire de l'évangélisation devant la cathédrale Sainte-Marie. L'évêque a ordonné diacre le séminariste Joël Longanga et prêtre le diacre Martin Kitete. En clôture de la messe du 25 octobre, l'évêque de Tchoumbé a procédé à l'ouverture de la nouvelle année pastorale 2020-2021 placée sous le thème « Prends courage, lève-toi, il t'appelle » suivant l'évangile selon saint Marc. Jean-Baptiste Malenge Kalouzou pour Radio Vatican.
Notre correspondant en Côte d'Ivoire nous rend compte de la messe de commémoration des 125 ans de l'évangélisation en Côte d'Ivoire, initiée par la Société des Missions Africaines.
Lors de la messe qu'il a présidée en la cathédrale Sacré-Cœur de Grand-Bassam, le père Jean-Bonzo Kwasi, vicaire général, s'est réjoui de ce jour mémorable avant d'exhorter les fidèles ivoiriens que nous sommes appelés à bonifier. Nous devons perpétuer cet héritage pour que de génération en génération, Jésus-Christ soit annoncé. Prononçant l'homélie, le père Constant Dibé-Bleu, vicaire épiscopal du secteur de Grand-Bassam, invitait les Ivoiriens à être à leur tour des porteurs de la bonne nouvelle dans le monde entier, en étant des chrétiens pour la paix, des chrétiens pour la justice, des chrétiens pour l'émancipation de l'homme et de tout l'homme, de la bonne nouvelle en tout temps et en tout lieu au risque de leur vie. Et ces 125 ans d'évangélisation de la Côte d'Ivoire représentent également 125 ans de présence de la Société des Missions Africaines en Côte d'Ivoire. Et pour le père Narcisse Sekaogou, supérieur provincial dans le pays, c'est un sentiment de joie, mais aussi un grand défi au vu du travail abattu par leurs ancêtres dans la foi. Portant son regard sur cette célébration, Mgr Ignace Dobobessi, président de la conférence épiscopale ivoirienne, a insisté pour que les agents pastoraux ivoiriens travaillent à annoncer la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de la paix, et que nous puissions chasser de nos cœurs toute rancune, tout esprit de vengeance, pour que l'évangile en s'installant dans nos cœurs nous apporte le salut, la paix, a-t-il déclaré. Notons que la messe solennelle de ce grand jubilé est prévue pour le dimanche 24 janvier 2021 dans le diocèse de Grand-Bassam. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire pour Radio Vatican.
Parlons à présent de la messe des ordinations diaconales de 14 jeunes du grand séminaire interdiocésain de Baraka dans l'archidiocèse de N'Djamena. Les précisions de notre correspondant local.
Prêtres, religieux et religieuses, fidèles catholiques et sympathisants, parents, amis et connaissances des ordinants ont pris d'assaut le grand séminaire Saint-Luc de Baccara dans le respect strict des mesures sécuritaires. Après le mot de bienvenue du recteur du grand séminaire, l'abbé Dominique Tinodi, ce fut le rite d'appel des candidats puis l'engagement au célibat avant d'entamer la liturgie de la parole. Dans son homélie, Mgr Nicolas Nadiba a tout d'abord insisté sur l'appel gratuit de Dieu dans toute vocation.
C'est Dieu qui choisit et il choisit qui il veut, quand il veut, comment il veut et très souvent il choisit ce que humainement on attend le moins.
S'adressant ensuite aux ordinants, le prélat a exhorté les jeunes à suivre l'exemple du prophète Jérémie.
Dieu connaît Jérémie d'une connaissance profonde et éternelle comme il connaît chacun de nous. Dieu aime Jérémie et l'invite à entrer dans cette relation d'amour et d'amitié intime.
Chers amis, si Dieu vous a choisi, ce n'est pas à cause de vos actes méritoires. C'est un choix gratuit et par amour comme il a fait avec Jérémie. Dieu vous a choisi gratuitement pour faire de vous ses prophètes. Il est donc important d'en prendre conscience et d'exprimer à Dieu votre reconnaissance.
Les nouveaux diacres, quant à eux, n'ont pas caché leur satisfaction tout en invitant les jeunes à ne pas avoir peur de s'engager pour la cause de l'Évangile. Signalons que les dons offerts aux nouveaux diacres dans le respect strict des mesures barrières ont mis un terme à cette célébration. Séverin Dingatolo pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
La police nigériane a affirmé vendredi que 22 de ses membres avaient été tués et de nombreux autres blessés par des manifestants au cours de mouvements de contestation populaire qui a secoué le sud du Nigeria en octobre. Les grandes villes du sud du Nigeria ont été secouées par 3 semaines de manifestations contre les violences policières et de la contestation contre le pouvoir qui ont fait au moins 56 morts selon Amnesty International. Le convoi du secrétaire général de la présidence ivoirienne, Patrick Achi, un des directeurs de campagne d'Alassane Ouattara, a été mitraillé jeudi soir près d'Agbaou, à 150 km au nord d'Abidjan, où il venait de tenir un meeting. En Éthiopie, un général nommé par Addis Abeba a été empêché de prendre son poste dans la région éthiopienne du Tigré. L'officier a embarqué jeudi à Addis Abeba dans un avion à destination du Tigré, mais a dû rebrousser chemin après avoir été informé que sa nomination ne serait pas considérée comme légitime. Dans un rapport publié vendredi, l'International Crisis Group a mis en garde contre une impasse entre Addis Abeba et le Tigré qui pourrait déclencher un conflit destructeur, susceptible même de mettre en pièces l'État éthiopien. Plusieurs dizaines de personnes pourraient avoir disparu dans un nouveau naufrage au large de la Mauritanie d'une pirogue de migrants partie du Sénégal, a indiqué jeudi une source hospitalière à Ouadibou, ville côtière du nord-ouest de la Mauritanie. La police a ouvert une enquête sur les circonstances de ce naufrage et les rescapés seront rapatriés dans leur pays d'origine après avoir reçu des soins en Mauritanie, a indiqué une source sécuritaire.
Radio Vatican, français. Afrique, Françoise Niamier.
Le secrétaire général de l'ONU pour les opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a appelé jeudi les Centrafricains à se rendre massivement aux urnes pour les élections présidentielles et législatives prévues le 27 décembre prochain. Selon lui, une forte participation aux élections enverra un message extrêmement fort à ceux qui sont tentés par autre chose que le processus démocratique, à savoir la violence ou le rejet de leur engagement au titre de l'accord de paix de février 2019. En République démocratique du Congo, la justice militaire a entamé jeudi les procès distincts de 2 chefs de milice, notamment accusés de destruction dans le parc de Kahuzi-Biega, sanctuaire des derniers gorilles des plaines dans l'est du pays. Le chef milicien Chance Miona a comparu à la première audience de son procès devant le tribunal militaire de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Il est poursuivi avec Benjamin Mazambi, un major de l'armée congolaise, notamment pour participation à un mouvement d'insurrection, meurtre, destruction de la faune et de la flore du parc de Kahuzi-Biega, selon l'acte d'accusation.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Notre programme se poursuit avec le magazine du jour consacré à l'actualité internationale. Camille Mukoso.
Dans les cadres de notre magazine, voici quelques brèves qui ont marqué l'actualité internationale cette semaine. Des sources judiciaires françaises ont indiqué vendredi qu'un homme de 47 ans, soupçonné d'avoir été en contact avec l'assaillant qui a tué jeudi trois personnes dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice, a été placé en garde à vue le même jour. Par ailleurs, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a condamné vendredi l'attaque survenue à Nice et l'assassinat par un islamiste de Samuel Paty, appelant les dirigeants politiques et religieux à dénoncer rapidement les discours haineux. L'armée ukrainienne a annoncé la mort des deux soldats tués vendredi par des tirs des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, en accusant la Russie de chercher à faire échouer la trêve en vigueur depuis trois mois. Dans un autre registre, plus d'un millier d'Ukrainiens ont protesté vendredi devant la Cour constitutionnelle à Kiev contre sa décision d'invalider certaines mesures anti-corruption, décision qui a provoqué une levée des boucliers. Près de 11 millions d'habitants d'Angleterre, soit un cinquième de la population, seront soumis aux restrictions locales les plus strictes contre le nouveau coronavirus, avec l'annonce vendredi d'un durcissement dans plusieurs régions dans les jours à venir. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a rencontré vendredi de nouveau aux responsables de forces de l'ordre après une série de nominations dénoncées par l'opposition comme un affaiblissement du pouvoir. L'Office européen des statistiques a annoncé vendredi que le produit intérieur brut PIB de la zone euro a bondi de 12,7% au troisième trimestre, un chiffre qui marque un rattrapage après une chute à moins 11,8% au trimestre précédent en plein confinement. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 a annoncé vendredi les modalités de remboursement pour les détenteurs des billets qui ne pourront pas assister aux Jeux reportés à l'été 2021 en raison de la pandémie. Le Qatar a annoncé vendredi que le responsable des examens gynécologiques forcés subis par des passagères à l'aéroport de Doha serait poursuivi en justice. Pour rappel, deux femmes à bord de 10 vols au départ des OA ont été soumises aux examens gynécologiques après la découverte d'un nouveau-né abandonné dans les toilettes de l'aéroport le 2 octobre dernier. Aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump et Joe Biden ont fait campagne jeudi en Floride, état clé où le président américain en retard dans le sondage a vanté les derniers chiffres de croissance et Joe Biden redoublant d'attaques sur la gestion de Donald Trump de la COVID-19. Les femmes sont sous-représentées dans les instances de pouvoir et les processus de paix, a dénoncé jeudi le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres devant le Conseil de sécurité où une majorité des membres s'opposait parallèlement à un projet de résolution russe jugé régressif. La Banque centrale européenne a clairement signifié jeudi qu'elle s'est préparée à muscler d'ici fin de l'année ses mesures de soutien à l'économie dans un contexte de grande inquiétude liée à la deuxième vague de la COVID-19 qui assombrit les espoirs de reprise. L'Azerbaïdjan a accusé mercredi l'Arménie d'avoir tué 21 personnes et blessé des dizaines d'autres dans des tirs de missiles ayant visé Barda, une accusation démentie par Erevan qui accuse au contraire son adversaire d'en avoir fait autant dans la province convoitée. La Turquie a promu une action diplomatique mercredi après la publication d'une caricature du président Recep Tayyip Erdogan par l'hebdomadaire français Charlie Hebdo. Monsieur Erdogan avait auparavant appelé lundi au boycott des produits français, prenant la tête de la colère grandissante dans le monde musulman contre le président Emmanuel Macron, après que ces derniers eût défendu la liberté de caricaturer le prophète Mohammed. Le Parlement du Nicaragua a approuvé mardi une loi punissant la propagation des fausses nouvelles et des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison, une loi dénoncée par l'opposition qui y voit un instrument de répression. Près de 80 rebelles syriens affiliés à la Turquie ont été tués lundi dans des frappes attribuées à la Russie contre leur camp d'entraînement à Ibled en Syrie, escalade la plus meurtrière dans cette région depuis 8 mois. La Chili a liquidé les derniers vestiges de l'ère Pinochet en plébiscitant dimanche la fin de la constitution rédigée sous la dictature qui sera remplacée par une nouvelle loi fondamentale écrite par une convention citoyenne.
C'est au tour de Armela Muhimundu de nous présenter notre rubrique du jour sur l'environnement.
Un rapport de l'ONU indique que des millions de voitures d'occasion très polluantes provenant de pays riches sont revendues aux pays en développement. C'est par cette nouvelle que nous débutons notre rubrique sur l'environnement. Entre 2015 et 2018, quelques 14 millions de véhicules anciens et de mauvaise qualité ont été exportés d'Europe, du Japon et des États-Unis. 4 sur 5 ont été vendus à des pays plus pauvres, dont plus de la moitié en Afrique. Les experts affirment que jusqu'à 80% d'entre eux n'ont pas rempli les normes minimales de sécurité et d'environnement dans les pays exportateurs. En plus de provoquer des accidents, ces voitures aggravent la pollution de l'air et contribuent fortement au changement climatique. La possession de voitures est en plein essor dans le monde entier avec environ 1,4 milliards de véhicules sur les routes, un nombre qui devrait atteindre environ 2 milliards d'ici 2040. Une grande partie de cette croissance se produit dans les pays en développement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Dans leur analyse triennale, les chercheurs ont constaté que les réglementations sur les importations de voitures dans la majorité des 146 pays étudiés étaient faibles ou très faibles. Le rapport publié par le Programme des Nations Unies pour l'environnement indique que les exportateurs et les importateurs doivent mettre en place des réglementations plus strictes pour endiguer le flux de ces voitures. À moins d'une transformation radicale du système économique, les pandémies comme la COVID-19 vont se multiplier et faire plus de morts, ont averti jeudi 29 octobre des experts de l'ONU sur la biodiversité. Ils soulignent l'immense réservoir de virus inconnus dans le monde animal. Sans des stratégies de prévention, les pandémies vont émerger plus souvent, se répandre plus rapidement, tuer plus de gens et avoir des impacts dévastateurs sans précédent sur l'économie mondiale, met en garde ce rapport. Selon des estimations publiées dans la revue Science en 2018 et reprises dans le rapport, il existerait 1,7 million de virus inconnus chez les mammifères et les oiseaux, dont entre 540 000 et 850 000 d'entre eux auraient la capacité d'infecter des humains. Mais les risques de contamination des êtres humains par ces virus, dont on ne sait rien, sont multipliés par les contacts de plus en plus serrés entre les animaux sauvages, les animaux d'élevage et la population humaine. Mais blâmer les animaux sauvages pour l'émergence de ces maladies est erronée, insistent les experts, pointant du doigt l'homme et les traces qu'il laisse sur son environnement. Face à ce constat, le rapport appelle à des changements profonds pour prévenir les pandémies, pour ne plus être contraint à devoir simplement gérer et contrôler les épidémies une fois qu'elles ont émergé. Les experts recommandent par exemple de lancer des études pour identifier les zones géographiques les plus à risque. Mais surtout, ils plaident pour la réduction de l'empreinte humaine sur la nature, réduire la déforestation et la destruction des habitats, réduire le commerce d'espèces sauvages, réinventer le modèle agricole et économique en général pour réduire les activités connues pour leur impact environnemental négatif. Les autorités et les conservateurs du Botswana ont lancé une enquête après la découverte de dizaines de carcasses de vautours, une espèce en danger, qui aurait pu succomber à un empoisonnement, a indiqué un expert mercredi. Selon le responsable de la vie sauvage au Botswana, la situation s'aggrave. Le nombre de vautours décline largement en raison d'empoisonnements dus à la mauvaise utilisation de produits agricoles chimiques. En juin l'an dernier, 537 carcasses avaient été découvertes, un record dans la réserve de Chobe, dans le nord du Botswana. Des études ont montré que l'empoisonnement et le commerce à des fins de médecine traditionnelle étaient responsables à 90% de la mort des vautours en Afrique. Les Australiens doivent être prêts à faire face à des catastrophes plus fréquentes et plus graves en raison du changement climatique, a mis en garde vendredi 30 octobre une commission d'enquête sur les feux de forêt qui ont ravagé l'immense île continent en 2019 et 2020. Les incendies reviennent chaque année en Australie au sortir de l'hiver austral, mais l'an passé, ils ont été d'une gravité exceptionnelle, faisant 33 morts et détruisant une superficie égale au Royaume-Uni ou au Ghana, ce qui était son précédent et maintenant notre avenir, a mis en garde la commission d'enquête royale chargée de mieux préparer l'Australie à faire face aux catastrophes naturelles. Selon elle, non seulement les catastrophes seront malheureusement plus fréquentes et plus graves. Le coût annuel des catastrophes pourrait augmenter pour atteindre environ 27 milliards de dollars d'ici 2050, sans même de tenir compte de l'aggravation du réchauffement climatique inévitable au cours des deux prochaines décennies. Parmi ces 80 recommandations, le rapport demande de meilleures données sur la manière dont le réchauffement climatique va se traduire dans des domaines précis.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Voilà, c'est la fin de cette édition de notre programme qui vous a été présentée par Françoise Nyamien. Merci de nous être fidèles. Le prochain rendez-vous des informations avec le service Français-Afrique de Radio Vatican, c'est pour demain à la même heure et sur la même fréquence. À très bientôt.
Quand le cœur est blessé, quand la vie est brisée, quand on est déchiré, est-ce possible d'aimer? Quand on est bafoué, que l'on est rejeté, quand on est méprisé, est-ce possible d'aimer? Oui, c'est possible, mais si difficile. Tu en es capable, fais la différence. Oui, c'est possible.